Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, K.R. Kevin Raphaël.
Boldor Week, baby! Là, on va retourner en studio, guys. Là, je sais que à la maison, c'est pas la même chose qu'en studio. On va retourner en studio, gang, dès la semaine prochaine. Mais là, c'est la semaine du Boldor, so yeah.
Ben oui, félicitations, Kev. Vous allez au Boldor. C'est vendredi, 19h à Trois-Rivières, c'est ça?
Ouais, diffusé sur les ondes de TVA Sport pour ceux qui veulent voir.
André Grasset contre
Limoilou. Moi, Limoilou m'ont battu quand je jouais au foot en 2009. C'est de là qu'est partie la chanson « Tu veux pas fuck avec nous, tu veux pas fuck avec Limoilou ». Il avait créé une chanson, elle avait blasté dans le vestiaire. On gagnait la game. On gagnait la game jusqu'en fin de match. On sortit le Wildcat. Quand le Wildcat commençait dans le monde du sport, dans le football. Puis je me rappelle, le gars est passé à côté de moi. Je l'ai jamais vu passer à côté de moi. Et on a perdu là-dessus.
C'est quoi les lyrics déjà?
Tu veux pas fuck avec nous parce qu'on est les moelleux. Et fuck that, là.
Puis Dream Team Québec, ça vous a pas tenté de vous inspirer de ça?
Non, Dream Team Québec, on était way above that, though. Way above that. Non, ça va être le fun, man. On est extrêmement underdog. Non,
félicitations pour vrai.
On va se rendre là-bas, on va jouer au foot. Puis si on gagne, man, vous allez voir des photos de moi avec des cigares dans ma bouche si on gagne. Si on gagne pas, vous allez pas avoir de photos point.
Moi, j'espère avoir un pichet ou deux gratuits à Cage au Sport, la place Versailles, parce que t'as un de tes joueurs qui travaille là.
Yes,
Alexis
yes,
Barbeau,
yes,
je le salue.
Yes. Yes.
Hey, Kibouk, abonnez-vous, parce que c'est quand même un gros mois de novembre.
T'as un très gros invité aussi.
Ouais, non seulement on a eu le review de Crown Jewel, ce dimanche, vous allez avoir le review de Full Gear. La semaine d'après, c'est le review de Survivor Series. Ça va, Kev?
Oui.
Come on! Bon. Et puis, on a des gros invités parce que là, on a sorti une entrevue avec l'ancien commentateur de New Japan. Puis pour vrai, gang, c'est vraiment pas de notre faute. Mais la nouvelle est tombée, je parle bien sûr de Kevin Kelly. La nouvelle est tombée, genre le soir qu'on a tapé l'entrevue. Alors, on n'a pas pu y en parler de son départ officiel. On savait que ça s'en venait, mais on pensait peut-être qu'il était pour être là pour Wrestle Kingdom. Finalement, il n'y sera pas.
Mais il était supposé être là. Il avait annoncé qu'il allait être là pour Wrestle Kingdom.
C'est ça, j'ai dit. Il était supposé être là. Fait que nous, on n'y a pas parlé vraiment du départ de New Japan comme tel, vu que c'était pas là. Mais finalement, il sera pas là. Mais il est à Collision. Il va être à Montréal, d'ailleurs, au mois de décembre. Kevin Kelly, superbe entrevue. Pour moi, il va falloir faire une partie 2 de ça éventuellement. Et puis, la semaine prochaine, puis l'autre d'après, on va avoir deux autres qui bookent pour vous. On va avoir un spécial Hall of Fame Wrestling Observer Hall of Fame qui les choix tombent ce vendredi et il y a 7 nouveaux intronisés cette année. Donc évidemment, je ne les sais pas encore, je vote pour ça, mais on va se faire un spécial pour qui j'ai voté, qui était en nomination, pour qui on pouvait voter, c'était quoi le ballot, les choix à Kev. Et puis on va également avoir une entrevue avec Terry Steen. Terry Steen, le
excellente
père de Kevin
entrevue.
Owens.
Excellente entrevue ouais. Qu'on a déjà faite, puis ça vaut vraiment la peine. Pat en a même appris sur Terry Steen cette journée-là, elle a pas manqué.
Absolument. Sans restriction de luxe, Kev, qu'est-ce qu'on a cette semaine?
De Florence Agathe Dubé-Moreau, qui a écrit le livre Hors-jeu.
Ça, c'est sans restriction, régulier.
Régulier. Fait qu'on est de retour sur le régulier.
On était au lancement de Florence il y a quelques semaines.
Ben, c'est une éducation, man. Allez l'écouter. Je vous dis, vous allez prendre quelque chose. Moi, je l'écoutais, puis c'est sûr, j'ai des discussions au niveau sport et féminisme avec Florence depuis longtemps. Là. T'sais, c'est une des raisons pourquoi je me sentais assez qualifié pour entreprendre le sport féminin comme je l'ai fait avec la force, puis comme je vais le faire dans les prochains mois et années, comme je continue à le faire avec le flag football, etc. Mais je vous dis, allez l'écouter, puis on a mis quelques clips sur Instagram, ça vaut la peine, puis sur TikTok, les commentaires, les gens, c'est des estis de mange-marde, là. Puis ça, c'est très révélateur sur certaines personnes et leurs misogynistic ways qui peuvent aller chier. Moi, je supporte Florence no matter what, so allez l'écouter, puis prenez une petite leçon de féminisme et sport avec Florence.
On a avant d'aller dans les nouvelles, Kev, évidemment, faut parler. Il y a eu un décès qu'on s'attendait, mais en même temps, c'est toujours un choc lorsque ça arrive. Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants, qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 47 ans. Moi, ça me frappe parce qu'évidemment, 47 ans, c'est l'âge que je vais avoir à la fin de l'année. Là. J'ai le même âge que Carl. Et mourir du cancer, me semble que c'est... De un, c'est affreux. De deux, à 47 ans, il me semble que c'est pire.
Juste.
Poster quelque chose. Tu les as-tu connus, les Cowboys, ou tu
ben
les
oui,
as
oui, moi, j'ai découvert les Cowboys au secondaire. Madame Feliciano nous avait fait écouter Étoile filante.
Oui.
Puis elle nous avait fait décortiquer ce beat-là. Puis à ce moment-là, je suis tombé en amour avec les Cowboys. Le beat à la manifestation, je la chante tout le temps. Dès qu'il y a une manifestation dans la ville, je chante.
Moi, c'est la reine. C'est la reine, ma préférée.
Wow.
Mais on a toutes une chanson préférée des Cowboys.
Puis ils sont toutes différentes. Puis ils sont toutes différentes pour plein de raisons. Je trouve que les Cowboys, c'est un des seuls bands qui fait l'unanimité. Il y a personne qui peut dire, moi, j'aime pas les Cowboys. Mais pourquoi tu les aimes pas? I don't know.
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Puis c'est rassembleur, toutes les communautés. Moi, j'ai du monde que j'ai vu sur mon Facebook, des Haïtiens, des Arabes, des Latinos, qui ont trippé sur les Cowboys parce que quand t'écoutais les Cowboys Fringants, tu te sentais pas jugé un, puis tu sentais pas un jugement d'écouter les Cowboys Fringants et de leur musique. Là. Tu sentais pas que leur musique était propre à eux et réservée juste à eux. Tu sentais vraiment que c'était ouvert à tous pour qu'on puisse... Un peu comme... Je le sens aussi avec Émile Bilodeau, que cette petite affaire-là, mais Émile Bilodeau, il est plus... il a des différences d'opinion, il est plus controversé parce qu'il prend des positions politiques, mais les Cowboys, c'est... J'ai rip ça dans l'auto en revenant à ma pratique, man.
Tu savais que Carl Tremblay était un fan de lutte? À la fin des années 2000, on le voyait souvent au Centre Bell pour des événements de la WWE.
Ah, je savais pas ça.
Je sais pas s'il est resté fan dans les années qui ont suivi, mais à la fin des années 2000, il était souvent au Centre Bell, ouais.
That's cool.
Ouais.
Mais je suis content qu'on en parle.
Alors évidemment, ben oui, absolument, ben ça dépasse, tu sais, BPM en a parlé, Jean-Charles en a parlé tantôt à TVA Sport. Je pense que ça surpasse, ça dépasse là, les limites du sport et puis
j'ai pas gros regrets dans la vie là, mais esti, j'aurais aimé ça être à Québec pour ce show là. On a tout essayé pour me rendre. Ludivine, elle s'est rendue. Moi, j'arrivais pas à temps. On a tout essayé là, pour que je me rende, puis j'ai pas été capable. Là, mais ça, là, c'est un show que j'aurais vraiment, vraiment aimé savoir.
Ouais, il va passer à l'histoire, ce show-là. Ça,
ben, j'aimerais ça qu'il passe à la TV first. Là.
Ouais, un peu comme Ginette et Céline sur les plaines. Là. T'sais, c'est un show sur les plaines qu'on va se souvenir longtemps pour d'autres raisons, évidemment. Et puis, on envoie évidemment nos condoléances à la famille et aux amis de Carl Tremblay. Je m'en vais ailleurs. Maxime Dupri.
Max Dupri!
Ben non, mais oui, effectivement, mais pas Ellie Knight, là, mais la fille là, qui est maintenant avec Chad Gable et Otis. Mm-hmm. Tu sais de qui je parle?
Mm-hmm.
Tu sais avec qui, c'est qui son copain?
Yo, Phenom.
Ben oui, exact. C'est Anthony Luke, qui est un joueur de football qui a fait le camp d'entraînement avec les Alouettes cette année. Qui a pas fait l'équipe, mais qui a fait le camp d'entraînement avec les Alouettes. Je trouvais ça comme complètement random.
Fait à noter.
Fait à noter. Hey, quelqu'un, avant qu'on commence, quelqu'un m'a dit de te dire que dans ton pool de foot sans restriction, t'étais meilleur cette année puis t'as fait ton draft en autopic que quand t'as pris tes propres choix l'an passé. Je vais juste dire ça de même.
Ben, je veux juste dire à cette personne-là, à chaque semaine, je fais mes line-up, je drop les gens que j'ai besoin de dropper, je garde les gens que j'ai besoin de garder. Fait que cette personne-là est de mauvaise foi.
Hey, juste avant d'aller aux nouvelles, dernière affaire. Te rappelles-tu, il y a quelques semaines, on a parlé des époques dans la lutte. On a parlé, tu sais, comment est-ce qu'on appellerait l'époque d'aujourd'hui. Ouais, tu sais, il y a l'Attitude Era et tout ça. Bon, ben, j'ai vu un genre d'image d'un site qui s'appelle Wrestling News. Et il donne les noms d'époque du début de la WWE à aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça intéressant. Écoute bien ça. Nous, on connaît évidemment l'Attitude Era. Il y a le Ruthless Aggression Era qui a suivi. Il y a le PG Era. Mais avant ça, lui, il commence avec le Bruno era, le Batlin era, le Hogan era, le New Generation era, avec Brett et Shawn Michaels, tu sais, qui ont monté. Là, évidemment, ensuite, c'est Attitude, Ruthless Aggression, PG. Et en ce moment, il appelle ça le Bloodline era. Je trouvais ça intéressant.
Bon. Moi, j'aime pas qu'on nomme un era avec un lutteur seulement.
Avec un nom.
Bah, on pourrait faire ça chez era, là. On dit le PG era, ce serait le John Cena era.
C'est d'ailleurs PG slash Cena. Je ne l'ai pas nommé parce que moi, je l'appelle plus le PG era. Mais ça, oui, c'est le Cena era.
Serait le Austin era.
Mais ça pourrait être The Rock aussi.
Ben non, c'est plus Austin. C'est Austin qui a fait exploser la business comme ça a explosé.
Ben, The Rock aussi, là.
Ouais, mais Austin, c'était le number one guy. Le clear-cut number one guy, c'était Stone Cold Steve Austin. Ouais,
c'est quand même The Rock qui a attiré que le record pour avoir main-eventé le plus de foule de 10 000 personnes et plus consécutives dans l'histoire de la lutte.
Oui, mais Austin avait fait le groundwork. The Rock a pris le flambeau. Il a carry avec Austin, mais c'est Austin qui a parti le feu comme le feu était parti. Austin avec D-Generation X.
Les nouvelles. Parlant d'Attitude Era, Vince McMahon, on vous en parlait dernièrement, Vince McMahon a vendu ses actions. Donc, il a vendu pour 8,4 millions d'actions de TKO Group Holdings. Donc, environ 30% de sa part dans la compagnie. Donc, on vous disait récemment là, que c'était pour... que c'était pour arriver que Vince commençait tranquillement à vouloir se débarrasser de ses actions. Et évidemment, l'action a chuté suite à ça.
Comme, pas de beaucoup.
Ben, elle a chuté de 84-90 à 80 dans les minutes qui ont suivi.
Ouais, mais c'est ça, mais non, mais c'était pas une affaire. C'est sûr que ça allait dropper, là. C'est sûr que ça allait dropper. Non, mais
c'est quand même mais, 5 % là.
Mais c'était pas alarmant, là, comme les gens pensaient que ça allait être alarmant.
C'est juste non. Puis c'est normal quand quelqu'un se départit, vend un si grand nombre d'actions que l'action va baisser.
Puis tout le monde se pose des questions aussi, là.
Harry Emanuel et Mark Shapiro, là, les CEO et COO de TKO, vont en acheter 1 million chacun, et le groupe comme tel, TKO, va en racheter 100 millions de ces actions-là. Donc, ça vaut à peu près là, 713 millions ce que McMahon a vendu. Je pense que McMahon n'a pas à s'inquiéter.
Il peut aller faire son épicerie. Tu sais, on dit « ride to the sunset », là. Je pense que ça va être ça.
Qui dit ça?
Non, mais l'expression, c'est « ride to the sunset ». Il s'en va, là, puis on le verra plus. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver avec Vince McMahon.
Éventuellement. Ring of Honor, je sais pas si t'as vu ça, Ring of Honor a failli être à CW Network. T'sais, on parle beaucoup de CW Network avec le fiasco d'NWA, avec NXT qui s'en va là. Mais imagine-toi donc, en 2022, à l'été, donc l'été 2022, Tony Khan avait en fait... Il y a quelqu'un de CW qui a approché Tony Khan pour amener Ring of Honor sur le réseau. Et Tony Khan a refusé. Parce que pour lui, il pensait... Lui voulait garder Ring of Honor parce qu'il pense être capable d'avoir quelque chose où ça peut venir influencer le deal qu'il pourrait avoir avec Warner Brothers, TBS, TNT, etc., etc.
Ben, c'est de l'ego mal placé.
Pourquoi tu dis de l'ego? Mais parce que c'est pas juste une mauvaise décision business?
Non, c'est de l'ego. Là. Lui, dans sa tête, là, Ring of Honor allait être quelque chose de tellement big parce qu'il a fait l'annonce que ça allait être tellement big, puis là, il a les mains pleines, fait qu'il est obligé de mettre ça de côté un peu. Mais en même temps, là, il veut quand même le revamper, mais en même temps, il a pas le temps parce qu'il veut pas déléguer, puis ci, puis ça. De l'ego mal placé.
En tout cas, bref, peu importe la raison ou ce qui l'a motivé, je pense plus que là, ça va arriver, Ring of Honor à CW. Donc, voilà. Donc, je trouvais ça intéressant qu'il y ait plein de nouvelles sur CW qui sortent, évidemment, une fois que le deal de la WWE a été annoncé. Mise à jour des billets pour Montréal, Kev, ça s'améliore pour Dynamite.
OK.
On est tout près de 4000. 3958.
Puis c'est combien la capacité?
Je m'en rappelle par cœur, là, 5700 à peu près. Mm. Tu sais, je te l'ai dit, ils vont faire pas loin de 5000. Par contre... Ils ont déjà la journée de le podcast est tombée la semaine passée. La journée qu'on l'a publié, il y a déjà des gens qui m'envoyaient des messages pour me dire « Man, vous l'avez calé exactement. » Il y a déjà des billets à rabais pour Dynamite ou pour Collision.
Okay,
il y a déjà ça. Des achetez-en trois pis tenez un gratuit, achetez-en un pis tenez un gratuit. Donc, ils ont déjà commencé à vendre des billets à rabais. Puis il y en a qui ont répondu, ben oui, mais la WWE aussi fait ça. Oui, la WWE aussi fait ça. Mais la WWE fait ça
de temps en temps.
Pour essayer de remplir. Oui, puis pour essayer de remplir quand c'est proche d'être rempli. Et non pas quand ils vendent, genre, tu sais, aussi peu de billets, puis ils veulent essayer d'en vendre plus. Il y a une différence. Mais oui, ça leur arrive, dans certains marchés, pas tout le temps, puis pas aussi souvent. Collégien est rendu à 2253. Alors que Laval, pour la WWE au mois de décembre, à fin décembre, pour le House Show, 5283.
Mais tu sais, encore une fois, faut toujours faire attention. Là. WWE, ils ont l'opportunité de nous avoir à la télévision à tous les jours, à toutes les semaines.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est absolument sûr. Si AEW est encore à RDS en français, peut-être que ce serait venu changer la donne. En tout cas, ça aurait pas pu nuire.
Ça aurait pas pu nuire.
Ouais, exactement. Exactement. J'espère à quel point ça aurait beaucoup influencé, mais en même temps, c'est sûr que ça aurait pas nuit. Ça aurait probablement aidé un peu. On en a parlé rapidement la semaine passée, Kev, mais là, on a vu le segment. Mariah May, qui est rendue avec AEW, cette lutteuse d'Angleterre qui a été luttée à Stardom au Japon pendant un certain temps, qui était... tu sais, on l'a dit, là, elle ressemble un peu à Tiffany Stratton dans son look. Et là, bon, elle est introduite par RJ City, le Torontois qui fait des entrevues maintenant aussi backstage. Et là, elle capote, elle veut rencontrer Tony Storm. Absolument. Elle crouse un peu même RJ City parce que lui peut la faire rencontrer Tony Storm. C'est la raison pour laquelle elle était à Stardom. La raison pour laquelle elle est à AEW. Donc, déjà, on la place dans un programme, dans un storyline quelconque, avec ou contre Tony Storm. Bien hâte qu'elle fasse ses débuts. Puis j'ai trouvé, Kev, que le segment backstage était parfait. Parce qu'elle n'était pas assez connue pour l'amener dans le ring avec une grosse entrée. On a entendu des crickets, probablement. Alors que backstage, de la façon dont ça a été fait, on a déjà un côté de sa personnalité. Puis j'ai aimé comment ça a été fait.
Ben, tu sais, elle perce l'écran, là. Elle est resplendissante. Elle a volé le show complètement. Puis j'aime l'idée que ça soit la stalker, un peu comme Mickie James l'était pour Trish, mais qu'elle soit la stalker de c'est quoi son nom?
De Tony Storm.
Mm-hmm. Fait que, j'ai hâte de voir si Tony Storm, son combat, elle va être en noir et blanc à Full Gear.
Oh, ça, c'est intéressant.
J'ai hâte de voir, man.
Ça serait... Si tu veux vraiment faire un effet télévisuel, là,
ben, tu le mets en noir et blanc.
Tu mets pas de commentateur puis tu le fais en film comme en film muet.
Non, mais il faut que tu mettes des commentateurs pour pas qu'on s'endorme. Mais
je comprends, mais ça serait un stun pareil à faire.
Faut que tu aies une trame narrative en arrière de ça, là.
Ben, tu peux mettre une petite. Honnêtement, t'as-tu déjà vu des films muets comme, mettons, Charlie Chaplin?
100%.
Il y avait toujours une petite musique en arrière.
On peut pas mettre une petite musique sur un combat de lutte comme ça, là.
Moi, honnêtement, j'aimerais ça voir ce que ça donnerait.
Moi, là...
Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'aimerais ça voir ce que ça donnerait.
Je vais te dire pourquoi j'aimerais ça voir ce que ça donnerait, mais je peux pas m'imaginer qu'AEW va faire ça, parce qu'ils sont tellement pas capables de gérer leur division féminine que je vais même pas leur donner l'opportunité de fucker les choses encore plus avec la petite musique, là.
Parfaitement d'accord avec toi, mais je me dis ça peut pas être pire que le Thunderdome.
Mais j'aimerais voir Tony Storm. Tu sais, mettons un match contre Sky Blue, là. J'aimerais vraiment ça qu'il l'essaye à Dynamite en plus.
Ça serait Sky Blue dans ce truc aussi.
Amener.
Fred.
C'est quand même drôle. Mais j'amènerais vraiment le pianiste sur le ramp. Puis qu'il joue live devant les gens.
Ah oui. Ouais. Au même, plus proche que ça, là, tu le mets ringside pour qu'on l'aille toujours dans
le
shot.
Non, mais c'est mieux que tu le mettes sur le ramp, comme ça tu peux faire des cutaways au pianiste, puis tu fais des cutaways aux gens, fait que tu sais, il est pas trop dans l'action, mais il est quand même là. Mais ouais, moi je l'essaierais si je suis Tony Khan, man.
En même temps, si tu le mets sur le bord du ring, tu sais qu'il va avoir un spot où ça va se faire sur le piano.
Ouais, fait que tu le mets sur la ramp, puis ça va être bon.
Il y a Mariah May qui fait ses débuts, Kev, ou qui va faire ses débuts à AEW, mais il y a Bonnie qui quitte. Donc, selon ce qu'on sait, c'est d'un accord mutuel que Bonnie, évidemment, Bonnie qu'on a connue sous le nom de Ali à Impact et Cherry Bomb sur le circuit indépendant. Elle a longtemps lutté pour Femme Fatale, d'ailleurs. Donc, elle était avec la compagnie depuis les tout débuts, 2019. Et puis, ben, elle quitte. Oui.
J'écoute AEW en même temps qu'on fait le podcast, là.
Oui.
L'avantage de le faire à la maison, là.
Ouais.
L'entrée de Swerve Scott, là. Avec le petit monsieur noir chose, qui danse, hein. Là.
Prince Nana, il était écœurant.
À Montréal, là, je vous dis déjà, là, que je vais danser dans les estrades comme Prince Nana. C'est le seul truc que je suis hype de AEW à Montréal. Prince Nana en ce moment. Damn. Ok,
je vous dis déjà que je vais filmer Kevin qui va danser.
Ah, yo, je te dis, j'ai vu son entrée, je l'ai reculé.
Hey, mais dis-moi donc, Bonnie qui quitte, est-ce que tu penses que ça veut dire que c'est probablement aussi la fin bientôt de Butcher and the Blade?
Ben, s'il était pas déjà mort, là, son moment mort, là.
Écoute, elle avait pas lutté, Bonnie avait pas lutté depuis le 8 septembre.
Mais je pense que là-dedans, il y a eu une
trois
blessure,
fois
là?
En 2023.
Il y a eu une blessure, non?
Oui, elle a eu une blessure en février. Mais elle a eu une blessure en février, effectivement, mais quand même, c'est pas celle qu'on a vue le plus souvent dans la reine comme telle.
T'sais. Il l'utilisait pas.
C'est pas une mauvaise lutteuse, Bonnie.
Ben non.
Je l'ai vue souvent sur le circuit indépendant. Là. C'est loin d'être une mauvaise lutteuse.
Il l'utilisait pas, puis moi je trouvais que c'était vraiment un personnage intéressant de AEW quand les gens ont de la misère à avoir du charisme dans ce vestiaire-là. Un retour à Impact peut-être.
C'est très possible.
Après c'est ça, très est-ce possible. Que NXT serait intéressé en Bonnie? Ben.
À moins Triple H a une super bonne opinion d'elle, puis tu sais, c'est quelqu'un qui aurait aimé amener. Sinon, ben oui, je la vois retourner à Impact. Là.
Ouais. Ouais.
Hey, PWG, je veux te parler de PWG parce que, pour deux raisons, en fait. Ils ont uniquement fait deux shows cette année, PWG. Le Battle of Los Angeles, et puis en janvier, puis le Mystery Vortex, au mois d'août. Et il y a une raison pour ça, c'est que Super Dragon, qui est le propriétaire de la compagnie, sa conjointe, de plusieurs années, était atteinte d'un cancer.
Mm.
D'un cancer assez agressif, et elle est malheureusement décédée hier, donc mardi matin. Et Super Dragon, quelques jours avant, avait sorti un communiqué comme quoi que annoncé la nouvelle et disant qu'il était pas pour avoir de show d'ici la fin de l'année et qu'il était pour en avoir en 2024 aussitôt que possible.
Alors, c'est sûr que on envoie des ondes positives.
Kevin. Absolument, Kevin et Rami la connaissaient très bien parce que quand Kevin et Rami, dans les débuts de PWG, ils couchaient carrément chez Super Dragon.
C'est fou.
Donc, ils l'ont bien connu. Alors, évidemment, on envoie nos condoléances non seulement à la famille, mais aux amis aussi. Et là, l'autre problème qui s'ajoute à PWG, c'est que le Globe Theater, dans lequel ils étaient depuis la fermeture de l'autre salle qu'ils utilisaient là dans le bar là où il y a eu les matchs mémorables de PWG, la salle ferme ses portes aussi. Donc ça veut dire que à leur retour, Super Dragon et PWG vont devoir se trouver une nouvelle salle. Donc
une nouvelle ère.
Puis j'espère que on va en profiter quand il va être prêt. Là, il n'y a aucune presse.
Mm-hmm.
Mais on va en profiter pour faire vraiment une nouvelle ère puis faire un 180 degrés. C'est-à-dire y aller avec du streaming. PWG a un produit qui gagne à être connu.
Ben, combien de fois on disait ça fait pas de sens qu'ils sont pas sur streaming puis qu'ils sont juste sous DVD,
ben oui.
Tu sais.
Exact. Donc là, évidemment, tu sais. Que Super Dragon prenne le temps nécessaire pour vivre son deuil. Et quand il sera prêt à revenir, mais je pense que non seulement se trouver une nouvelle salle, mais se trouver une salle où il va pouvoir faire du streaming, je pense que ça va être la priorité. L'infirmerie.
Ah,
Hey, Ricochet, du côté de la WWE, a été placé sous le protocole des commotions cérébrales suite à son match de le four-way qu'il y a eu à Raw pour le l'aspirant numéro 1 au titre intercontinental. Donc, il est tombé là, sur sa tête et sur son cou là, après avoir essayé un Hurricanrana sur Ivar. Il y a également Fallon and Lee. T'en avais parlé la semaine passée, Kev. Où Tiffany Stratton l'avait pitché un peu, là, tu sais.
Je l'ai calé sur le show.
Ouais. Ben, elle aussi fait partie du protocole de commotion cérébrale. Et puis, il y a Rey Mysterio, qui, lui, a subi une opération à un genou. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'angle.
Le injury angle.
Avec Santos Escobar, donc...
Je trouve qu'ils ont bien rentabilisé la blessure.
Absolument, absolument. Et puis, on prévoit qu'il va revenir dans environ 2 mois. Donc, voilà. Lutte québécoise. Lutte québécoise.
On recommence.
Lutte québécoise.
Laissez pas
tranquille. Tu sais, Kev, faire de la promotion... Être promoteur, vendre des billets, c'est pas toujours facile. Ça donne pas toujours les résultats escomptés.
Mm-hmm.
Ça fait partie du risque. Femme fatale à Sainte-Martine, ben, c'est ça. Ça a été ça, malheureusement, pour Michael Bisson et moi. Ça a pas été le show... dans le ring, on est très satisfait, mais malheureusement, il y avait, puis moi, je suis très transparent, 54 personnes qui ont payé pour voir le show. Alors, évidemment, on fait pas d'argent, mais on est content parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de jeunes lutteuses là, en ce moment, beaucoup qui ont appris avec la IWS, entre autres. Il y a une belle recrudescence, oui, des jeunes lutteuses au Québec, et on est content de ce qu'on a vu. Dani Leo et Katrina Creed, qui est une des meilleures rivalités dans la lutte féminine cette année, deux jeunes de la IWS, Bertrand Hébert était là. Et Bertrand a dit, je les ai vus lutter il y a quelques années quand ils commençaient. Et là, on dirait que c'est deux lutteuses, c'est deux autres lutteuses que je vois devant moi. Alors ben ça, c'est toujours positif.
Ben moi, je vais te donner un kudos là, avant que tu continues. Premièrement, ça montre une belle humilité que tu en parles sur le show, que tu expliques tout ça. Puis deuxièmement, c'est pas perdu. Tu as fait travailler des gens. Moi, je dis tout le temps, tu sais, quand tu réussis à faire travailler des gens... t'as gagné au bout de la ligue. Oui, côté monétaire, c'est plus difficile souvent parce qu'on perd des sous quand ça arrive, mais il y a une fierté à avoir de dire, ben il y a peut-être 12 personnes ou 16 personnes qui ont eu un salaire grâce à ma dedication, so je te lève mon chapeau.
Ben, merci beaucoup. La finale a livré, Nicole Matthews a défendu avec succès son titre de femme fatale contre Vanessa Craven et Mary Lee Rose. Et puis, il y a également Jessica Black, qu'on n'avait pas vu à Femme Fatale depuis longtemps, qui a fait une promo du tonnerre pour ouvrir le show, qui est intervenue également dans la finale. Et le match de la soirée, je crois, selon plusieurs, à tout le moins, je me prononcerai peut-être pas, mais selon plusieurs, c'était le match de la soirée. Casey Diamond contre Chris Tara. Je vous en parle souvent, Chris Tara, là, qui est la up-and-comer dans la lutte au Québec. Ben, ils ont fait un match vraiment à plusieurs niveaux. Autant la lutte était bonne que c'était divertissant à regarder. Casey Diamond était d'ailleurs accompagné par Stéphanie Sinclair, qui est une ancienne lutteuse qui revient là dans le monde de la lutte comme gérante de Casey Diamond. C'est sa première fois depuis je sais pas combien de temps qu'elle n'avait pas participé à un événement de lutte. Deux filles de Jonquière qui sont amies et qui se connaissent très, très bien. Donc, non, pour vrai, très, très, très satisfait des jeunes. Les Sam Kelly, entre autres, Alexia également. Pour vrai, il y a quelque chose. Puis Mike et moi, on travaille sur un projet en ce moment. On pense changer un peu le modèle de Femme Fatale pour l'an prochain. Et on va sûrement avoir des annonces pour vous au début de l'année. Parce que 2023 n'a pas été facile. Entre le show, rappelle-toi, Kev, le show où Deonna Purrazzo était pas là, Lufisto était pas là, et il y a eu une tempête de neige, puis on a perdu la moitié du roster.
C'est vrai.
La journée 2. Il y a eu le show à Toronto a bien été, mais ça a été extrêmement compliqué au niveau administration et promotion qu'on a fait à Toronto avec Smash. Vancouver, ça a chié dans la pelle. Il y a même un show qu'on vous a jamais annoncé puis qui a jamais eu lieu, qu'on avait booké des gens puis qu'on a cancellé. Donc ça n'a pas été, puis là il y a ce show là. Donc ça n'a pas été facile en 2023 comme année pour Femme Fatale. Et puis ben écoute, 2024, on a une nouvelle idée en tête. Puis je vais pouvoir vous en parler davantage au début de l'année 2024.
On regarde vers le haut.
Je vais continuer sur la lutte féminine, par contre. Pardon?
On regarde vers le haut.
Absolument. Absolument. Je continue sur la lutte féminine parce que ce vendredi, c'est la première d'un film, un long métrage documentaire qui s'appelle Celles qui luttent et qui est dans le fond une réalisatrice, une documentariste, Sarah Barry-Godet, une fille d'Abitibi-Témiscamingue qui est maintenant basée à Montréal puis qui a déjà travaillé sur d'autres projets, qui dans le cadre des rencontres internationales de documentaires de Montréal lance son film. Dans le fond, c'est un film sur elle s'est concentrée sur la vie et la carrière de trois lutteuses, Lufisto, Azael et ta préférée, Lou O'Farrell. Bien hâte de voir ça vendredi. Toi, tu vas être au Bol d'Or, mais moi, je vais être à la première du film. Et puis, bon, on a la chance de l'avoir en entrevue, Sarah Barry-Godet. Alors, on est avec Sarah Barry-Godet. Comment ça va, Sarah?
Ça va bien et merci de me recevoir.
Ben, avec plaisir. Écoute... j'ai ri un peu. Bon, nous, on s'est parlé quand tu as commencé à travailler sur ton projet de film ou documentaire sur la lutte féminine. On s'était parlé. Puis, d'ailleurs, merci, dans le kit de presse que j'ai reçu, tu disais que tu avais découvert l'existence de la lutte féminine indépendante à travers Femme Fatale en 2020, donc tout juste avant la pandémie. D'ailleurs, ça, Kev et Sarah, c'est le show où Lufisto a lancé Priscilla Kelly, maintenant Gigi Dolin, dans le mur, oui. Et a fait un gros trou dans le mur.
Mémorable quand même. Je pense que c'est pas pour rien après ça que j'ai accroché à la lutte féminine. C'était quand même quelque chose.
Ben exactement. Puis tu dis, dans le même coin, tu dis... alors que l'Ontarienne Casey Spinelli ne se gêne pas pour glisser sa main dans sa culotte avant d'envoyer un féroce doigt d'honneur à la Québécoise Lou O'Farrell. Alors, je me dis, toi, t'as vu ça, t'as vu une fille lancer une autre fille à travers un mur à Ottawa, un show entièrement féminin, et tu t'es dit, OK, il y a quelque chose à faire au niveau documentaire avec ça.
C'est spécial, hein? Mais oui, écoute, moi, j'ai trouvé que c'était comme tellement... Je faisais, oui, c'était provoquant, tout ça, mais je trouvais que les filles étaient tellement bonnes, tellement charismatiques. Puis c'était comme un geste d'empowerment aussi, même si ça se faisait, tu sais, entre femmes, puis que ça s'envoyait chier, tu sais. Pour moi, il y avait quelque chose, il y avait du power là-dedans, puis j'étais comme, wow, c'est donc bien beau. Puis en même temps, c'est tellement particulier, puis j'étais comme, OK, je veux apprendre à connaître ces femmes-là, qui sont certainement complexes, profondes, tout ça. Puis, ben, c'est ça que j'ai fait dans les mois suivants. J'ai fait des entrevues, tout ça. Puis, j'ai eu un coup de cœur, notamment pour Lou, Azael et Lufisto, qui se retrouvent à être au cœur du film. Et, ben, c'est ça. Je m'intéresse à travers ce documentaire-là à la condition féminine dans le monde de la lutte. Mais, tu sais, on s'attarde vraiment au quotidien de ces femmes-là, à leur passion et à leur combat personnel.
Quand tu t'es lancé là-dedans, c'était quoi tes craintes par rapport à te dire, yo, moi, je le fais, là. Lutte féminine. On n'en parle pas beaucoup, mais moi, j'en parle. Let's go!
Mm-hmm. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est toujours risqué de, comme, tu sais, je veux dire, moi, on s'entend comme la lutte. Je connaissais très peu ça au départ. Fait que c'était ça ma crainte. Est-ce que je vais bien transmettre cet univers-là? T'sais? Parce que j'étais allée voir de la lutte peut-être à une ou deux reprises dans un sous-sol, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Mais, tu sais, à part ça, je connaissais pas grand-chose. T'sais. Mais là, c'est en immergeant dans cet univers-là. Premièrement, bon, en allant voir le show à Femme Fatale, après ça, en faisant des entrevues avec ces filles-là, en passant du temps avec elles et tout ça, j'ai appris, tu sais, tout le monde de la lutte, comment ça fonctionnait et tout ça. Mais bon, on s'entend, je suis quand même pas une experte aujourd'hui, tu sais. Moi, mon but, c'était vraiment de, comme... Tu sais, avant de faire un portrait de la lutte féminine, c'est un portrait de la passion de ces femmes-là, tu sais, au final, parce que la lutte que j'ai trouvée vraiment incroyable, c'est à quel point ces gens-là, que ce soit des hommes ou des femmes... C'est que c'est des passionnés, tu sais. L'adrénaline, tu sais, qui est associée à la réaction de la foule, tu sais, la performance intense sur le ring, les lutteurs, ils en mangent, là. T'sais, puis pour eux autres, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, puis que ça leur sort de leur vie de gens ordinaires, tu sais. Puis c'est pas pour rien, là. C'est ça que la plupart prennent comme jamais vraiment leur retraite, là, qui reste tout le temps à quelque part parce que c'est tellement comme c'est particulier, là. C'est vraiment extraordinaire, là, quand même, comme passion, là.
C'est dur de sortir de ce milieu-là. J'en suis moi-même un témoin et moi-même là-dedans. C'est l'adrénaline, le rush d'adrénaline quand tu traverses des rideaux, c'est vraiment, vraiment spécial. Dis-moi, Sarah, qu'est-ce que tu as appris à travers tes entrevues, à travers le travail que tu as fait sur ce film? Qu'est-ce que tu as appris qui t'a vraiment, vraiment surpris?
Je te dirais ce qui m'a surpris, ça c'est pas un détail, là, mais de voir les lutteuses aller, de préparer leur match, parce que tu sais, je savais que la lutte était arrangée, là, entre guillemets, là, tu sais, je veux dire, que c'est chorégraphié et tout ça, mais le fait qu'ils arrivent peut-être, tu sais, quelques heures avant le show, puis qu'ils préparent leur match et qu'ils retiennent tous les mouvements, puis qu'ils sont capables de s'adapter sur le ring selon les réactions de la foule, j'ai trouvé ça tellement impressionnant, là. Ça, c'est quelque chose en coulisses que je m'attendais pas du tout. Sinon, bon, au niveau, tu sais, de l'univers, tu sais, j'ai appris quand même que, je veux dire, la lutte féminine, c'est un univers qui est complexe, tu sais, parce que, à la fois, ces femmes-là, tu sais, veulent être acceptées par leur milieu qui est dominé par des hommes, mais en même temps, tu sais, il y a quand même du sexisme et de la misogynie qui est encore présente, tu sais, de la part des fans à certains endroits, des fois de la part de collègues de manière comme plus discrète, disons, là, même si on s'entend, je veux dire, c'est plus la même chose qu'il y a 20 ans et tout ça, tu sais, je veux dire, notamment, tu sais, tout ce que Lufisto a passé au travers, je veux dire, c'est quelque chose quand même, là, que quand elle a commencé ses débuts, là, c'était pas facile, tu sais, mais quand même, je veux dire, de ce que j'ai appris, il y a quand même encore du chemin à faire, puis c'est complexe pour ces femmes-là qui sont à la fois passionnées, mais qui, des fois, tu sais, sont... doivent subissent des commentaires désobligeants de la part, c'est ça, des fois, de fans à certains endroits, par exemple.
Quand tu mentionnais à ton entourage que tu faisais un documentaire sur la lutte féminine, c'était quoi les réactions des gens autour de toi?
Ah, ben, ça attire la curiosité, là. Je pense que les gens trouvent ça trippant, de un. Surtout la lutte féminine, tu sais, je pense que... Si je prends, mettons, mon exemple, moi, quand je suis allée voir de la lutte dans le quartier Hochelaga, c'était que des hommes, tu sais. Puis dans ma tête, moi, j'étais comme, je pensais que c'était pas mal juste des gars qui faisaient de la lutte. Puis bon, quand j'ai fait mes recherches, quand je suis tombée sur Femme Fatale, quand je suis tombée sur la série Glow, entre autres, sur Netflix, là, j'étais comme, ah ouais, OK, il y a des femmes qui font ça, tu sais, c'est... Ça a l'air niaiseux, mais c'est ça. Puis là, au final, ben, tu sais, j'ai découvert que oui, il y a en masse de femmes qui font de la lutte. Puis je pense que c'est ça qui attire la curiosité aussi des gens, c'est de savoir, oh, tu sais, que c'est quoi, tu sais, comment ça se passe, tu sais, une femme qui se bat sur un ring, surtout qu'une femme qui se bat contre un homme, tu sais. Ça, c'est quelque chose quand même, c'est super impressionnant. Puis des fois, c'est même confrontant, tu sais, à voir. Fait que je pense que c'est vraiment, c'est un univers qui attire la curiosité. Ouais, parce que c'est un univers auquel on a rarement accès, en fait.
Sarah, je ne sais pas si tu le sais, mais tu disais tantôt que tu avais eu un coup de cœur, évidemment, pour tes trois protagonistes, Lufisto, Azael et Lou O'Farrell. Et je ne sais pas si tu sais, mais tu partages ce coup de cœur-là avec Kevin Raphaël. Kevin qui parle de Lou aussi souvent qu'il peut en parler. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, de Lou?
Ah, de Lou, mon Dieu, plein de choses, là. Je veux dire, d'abord sur le ring, Lou est incroyable, là. Elle a un charisme de feu. Puis surtout là, dernièrement, moi je suis allée dans le fond à son au show où est-ce qu'elle a fait son heel turn. Puis mon Dieu, c'est tellement audacieux et j'adore ça. Puis je trouve que justement Lou, elle a une capacité à s'adapter et tout ça. Puis juste en tant que personne, tu sais, c'est tellement une belle personne. Tu sais, maman en plus, moi c'est ça qui m'intriguait aussi, tu sais, de connaître sa réalité comme maman, tu sais, parce que c'est quand même pas évident, tu sais, de devoir gérer sa passion, son travail, sa famille, tout ça. Puis on en parle aussi dans le documentaire. Fait que ouais, moi aussi Lou, un beau coup de cœur.
Ah mais Lou.
Sarah,
Lou, elle m'a brisé le cœur avec son heel turn.
Mais on, c'est correct. On, petit à petit, je m'en remets. Mais Sarah, ben écoute, on va voir. Je veux qu'on parle plus de cette relation-là. On parle rarement de féminisme et lutte féminine. Puis je pense que dans ton documentaire, on va ressentir cet aspect de féminisme là-dedans. Puis je pense que c'est une plus longue conversation qu'une seule question. Mais comment t'as été capable d'amener cet aspect féministe-là à un sport comme la lutte, qui est super archaïque, entre parenthèses, là?
Ben, tu sais, le focus est vraiment mis sur... Tu sais, c'est pas un team qui se veut militant nécessairement. Tu sais, je parlais tantôt, ce qui se passe des fois avec certains fans, tu sais, à certains endroits. Ça, c'est pas quelque chose, par exemple, qu'on explore à travers le documentaire. On est vraiment plus dans le quotidien, tu sais. Comment ces femmes-là arrivent, par exemple, plus à gérer maternité et passion, tu sais. On parle aussi d'âgisme. Tu sais, Lucito, elle... qui a début quarantaine, qui voit, tu sais, elle voit qu'elle a des barrières, tu sais, à cause de son âge, que certains autres lutteurs n'ont pas, tu sais, je pense que c'est PCO, tu sais, lui, qui est rendu pas mal plus âgé, tu sais, je crois qu'il est dans la cinquantaine, si je me trompe pas, que, ouais. Tu sais, pour les hommes, c'est différent, tu sais, l'expérience est plus associée, ben, c'est associé à quelque chose de positif, contrairement aux lutteuses, tu sais. Fait qu'on explore, justement, ces enjeux-là, mais on explore aussi vraiment la solidarité féminine qui est essentielle et qui est super belle à voir justement dans ce milieu-là. Là, je veux dire, juste Lou et Azael, ils ont eu une feud à la FCL, puis on explorait cette feud-là, mais toute l'amitié qu'il y a derrière aussi, qui est super touchante. Fait que ce féminisme-là, qui est à travers le documentaire, est plus dans les détails et dans... On explore la réalité en sachant tout le temps que toujours les hommes sont toujours là, tu sais, puis ils doivent faire leur place là-dedans. C'est pas tout le temps évident, tu sais.
Ça s'appelle Celle qui lutte, un long métrage documentaire de 69 minutes qui va être qui va sortir en première. C'est ce vendredi, Sarah, dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal, évidemment réalisé par toi, Sarah, mettant en vedette Lufisto Azael et Lou O'Farrell. Merci énormément. Dis-moi donc, les dates. La première c'est vendredi, mais pour Monsieur, Madame, tout le monde qui veut éventuellement voir ce film-là, comment ça va, de quelle façon ils vont pouvoir le voir et à quel moment?
Oui, donc on a une deuxième projection aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal qui va avoir lieu jeudi le 23 novembre à 15h45 au Cinéma du Parc. Et sinon, bon, le film va poursuivre un peu sa vie en festival et il va revenir dans nos salles de cinéma autour de la début mars, là, probablement, là, d'ici le printemps.
Et puis, évidemment, j'ai vu passer, là, vous avez une page Instagram, vous êtes sur les réseaux sociaux, ça s'appelle « Celle qui lutte » au pluriel, C-E-L-L-E-S, lutte, L-U-T-T-E-N-T. Merci beaucoup, Sarah Barry-Gaudet, d'avoir pris le temps aujourd'hui.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Je vais essayer d'être là le 23. Là. Je regardais mon horaire. Là. It's possible. Fait que je vais essayer d'être là le 23.
Salut, on se voit vendredi, Sarah. Bye-bye.
Ah, super. À bientôt,
merci, madame. Sarah. Bye-bye. Super entrevue. Vraiment une belle entrevue. Ce que j'ai retenu, Kev, puis je vous en parle souvent de ça. As-tu vu ce qui l'a le plus agréablement surpris à Sarah? C'est comment les filles montaient leur match. Le côté créatif en peu de temps. Quand je vous dis là que pour moi, là, ça, c'est un volet à développer pour attirer des nouveaux fans, on manque quelque chose de vouloir à ce point-là cacher la magie derrière, parce que c'est un processus qui est vraiment insensé quand tu y penses. Là. Les lutteurs, lutteuses, là, sur le circuit indépendant et à la WWE, là, à part quelques exceptions, répète pas, pratique pas, il invente un match, il crée un match en quelques minutes, quelques heures avant le show, puis il le livre, puis il s'en souvienne, puis il le livre. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, puis je pense vraiment que c'est un côté à développer davantage. Moi, je vous en parlerai évidemment la semaine prochaine.
J'aimerais ça lui parler plus longuement à cette Sarah.
J'ai plein de questions pour
très, elle. Très intéressant.
À la fin, tu sais, j'ai posé une question, mais pour moi, c'est une question de développement de presque 30 minutes, là. Fait que, peut-être, on se quissait un sans restriction, peut-être.
Ah, ben oui, je te donnerai ses contacts. Les coups de cœur. Tu parlais tantôt de Shane Strickland et de la danse de Prince Nana. Son match contre Penta, je l'ai adoré à Dynamite. Adoré.
Shane Strickland, sans ligne, pourrait être dans les plus améliorés.
Plus amélioré, puis sans ligne, pourrait être haut, mettons, dans les meilleurs lutteurs de l'année.
Mais on peut pas le mettre dans les lutteurs de l'année. Le calibre est beaucoup trop fort en ce moment.
Donc, il serait quoi cette année, en 2023? Il serait top 10, top 15?
Ben, top 15.
OK, on s'entend sur top 20. T'aurais pas parlé de Swerve Strickland, top 20, il y a un an ou deux.
Non. Pour ça, je te dis, plus amélioré.
C'est quand même, incroyable.
Vraiment, extrêmement amélioré. Je sais que, bon, toi, tu l'as pas entendu, tu l'as pas vu, mais moi, je l'ai entendu. La promo de Hangman Page cette semaine à Dynamite, c'est du feu.
Ah,
ça
oui?
fait longtemps que j'ai vu Hangman Page de même.
Mais on en parlera la semaine prochaine.
Le segment était... C'est un des meilleurs segments d'Hangman Page que j'ai vu depuis très longtemps.
Moi, j'ai adoré la semaine passée, Paige, l'intensité qu'il y a eu sur l'attaque sur Swerve.
Ben, c'est une suite.
Bon, ben, parfait. C'est bon, ça. Mark Briscoe, Jay White.
Excuse.
Hey, Julia Hart, as-tu fait un bon combat la semaine passée?
Julia Hart, non seulement s'est améliorée dans le ring,
elle m'a surpris.
Elle own le stage. Elle a une présence que... C'est dur à décrire la présence que Julia Hart a là, puis je suis agréablement surpris d'une fille de 23 ans.
Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est sa lutte qui m'a le plus impressionné. J'ai jamais vu Julia Hart. C'est comme si du jour au lendemain, t'es devenue une bonne lutteuse, alors que, il me semble, la dernière fois que je l'ai vue, c'est assez moyen. Et là, elle était solide, ses coups rentraient, il y avait de l'intensité. Puis pourtant, elle luttait avec Red Velvet, là, elle luttait pas avec Hikaru Shida, là.
Faut faire attention parce que je pense pas que c'est du jour au lendemain parce que elle lutte quand même souvent
Dark
puis à Rampage et c'est de là l'utilité d'un Dark World de Rampage parce que on les voit faire des bons entre leur dernier Dynamite puis leur avant-dernier Dynamite en termes de match. Pour moi, Julia Hart, c'est plus que ça. T'sais, elle avait déjà atteint un certain niveau avec House of Black. Là, pour moi, l'avoir owné le stage, puis l'avoir owné le segment comme ça à 23 ans, ça rappelle un certain MJF, puis ça rappelle une certaine Rhea Ripley à la même âge. Fait moi, j'étais vraiment agréablement surpris, là.
Mais, je le sais, c'est pas du jour au lendemain, Kev. C'est juste que, pour moi, c'est comme si c'était du jour au lendemain, tu comprends?
Non, je comprends.
Il me semble que j'ai manqué le bout ou assez amélioré graduellement. C'est peut-être moi qui n'ai pas assez vu de Julia Hart, mais elle n'est pas toujours à Dynamite non plus en train de lutter.
C'est ça.
Ouais. Mark Briscoe, Jay White, le main event, c'était un excellent match.
Ben, Mark Briscoe, c'est l'ultimate babyface, puis je comprends pas pourquoi on l'utilise pas. Peut-être qu'il avait demandé du time off, parce que j'ai aucune autre raison pour moi pour qu'on n'utilise pas ce gars-là, puis pourquoi on met pas un rocket sur son dos, là. C'est juste son entrée, ils ont fait le white shot, c'était écrit Mark Briscoe d'un bar, Jay Briscoe d'un bar. C'est un babyface en partant, là, tu veux qu'il gagne les matchs de lutte, ouais. T'es investi émotionnellement, tu sais.
Kevin Owens au commentaire lundi. Ah, qui est bon, Kev, au commentaire.
Il est vraiment bon au commentaire, sauf que il était malade clairement, là, où il y avait...
Il y avait la voix de JR quand JR fait le pas, là.
Il y a quelqu'un qui voulait y faire une mauvaise blague, là.
Ben, je pense pas, là, mais...
Mais non, mais...
Mais je comprends, mais il y a quand même...
Tu comprends ce que je veux dire? Il était super bon.
Oublie la voix.
Ouais.
Moi, j'ai aimé les juste les petits commentaires, là, genre... tu sais, quand Carlito est arrivé, il a dit aux gens, continuez à manger des pommes. Il a dit de Bailey, il dit « Encouragez jamais les idiots ». Il dit « Je connais rien au football, mais je connais Mario le mieux parce qu'il avait la ceinture des Steelers ouais. ». Puis il dit « Je prendrai pas une douche avec parce que je suis pas un psychopathe », faisant référence à Logan Paul. Il dit que le code avait trop de sparkles. Tu sais, j'ai adoré tout ça. J'ai juste trouvé la raison pour lui donner une semaine off un peu faible. C'est pas sur lui, là, mais se faire suspendre parce qu'il répond aux attaques des autres. C'est ça qui est arrivé, là.
Ben, c'est ça.
Il s'est fait jeter une bouteille d'eau sur la tête. Il a couru après les deux autres, puis il s'est battu, puis on le suspend pour ça, parce qu'il est aux commentaires. J'ai trouvé ça un peu faible côté storyline.
Ben, ils auraient juste dû lui dire. Ils auraient juste dû nous dire, il y a une blessure, il peut pas lutter cette semaine, mais on l'a mis aux commentaires dans le titre.
En parlant de Kevin.
Mais il était très bon, là. Je veux pas que les gens disent que je dis qu'il était pas bon à cause de sa voix. Il était très, très bon. Puis, il était super enthousiaste. C'est ce qui manque à Kevin Patrick. Lui, il était enthousiaste. Fait que c'était intéressant. Donc, ouais.
Fred, si t'avais à classer les trois Kevin, Kevin Patrick, Kevin Owens et Kevin Raphaël, tu mets qui? 1, 2, 3?
Tu me poses vraiment la question?
Oui!
Kevin Patrick, j'ai aucune idée c'est qui.
Donc, il est 3.
Fait que, c'est ça. Kevin Owens, malgré tout ce qu'il a accompli, ben, c'est ça, je le côtoie pas, tu sais, puis il me fait pas autant travailler que Kevin, fait que je vais mettre Kevin.
Le Rock du Québec, baby.
Et c'est très, très drôle, Kevin, je te jure, c'est pas arrangé. Kevin, Steen et moi, il m'a envoyé quelque chose tantôt, je dis, écoute, je fais le podcast, je regarde ça après. Et il y a un message pour toi. Donc, et c'est très drôle avec ce que tu viens de dire, parce qu'il sait pas de te critiquer sa voix, mais tu vas comprendre que c'est drôle. Il m'a dit, dis à Kevin de manger un char. Mais ensuite, il dit, dis-y tout de suite après que je niaise pis que je l'aime. Ça non, peut pas plus fitter avec
fois,
ce qu'on vient de dire.
À chaque fois que je fais une critique de Kevin, je suis tout à fait, non, mais je l'aime, guys! J'ai hâte d'un jour prendre une bière avec Kevin Owens. Je pense que ça pourrait être une belle
soirée. Il boit pas vraiment de bière.
Ben, de l'eau. Manger des chips. Manger un même
match. Je l'ai déjà vu chez Maurice à Québec. Je l'ai déjà vu prendre une Smirnoff Ice.
Ok, mais regarde.
Du fromage et du vin.
Oui. Non, mais j'aimerais ça séparer un nachos avec Kevin Owens.
C'était la fois où Adam Pearce. Je te l'ai déjà conté celle-là. Non. Chez Maurice à Québec, les toilettes étaient mixtes et c'était pas populaire compris, à l'époque. Ouais. Et Adam Pearce s'en va aux toilettes, je dis son haut, puis il y a une femme qui se met à crier parce qu'elle non plus savait pas que les toilettes étaient mixtes. Puis il pensait que j'y faisais un rib.
C'était très drôle.
Hey, à ce jour, on s'en reparle. Bailey, j'ai adoré que Bailey montre le footage de 2020 pour nous expliquer ce qui est arrivé avec Kyrie. Et j'ai aimé le groupe Hug avec Bailey, puis Bailey qui dit « Non, non, mais j'en fais plus des Hugs », faisant référence à son ancien personnage. T'as le turn d'Asuka, puis si t'as remarqué dans le match, elle n'est pas rentrée dans le ring une fois avant de pas faire le tag. Parce que, tu sais, c'est-tu cave quand les gens se battent avec l'autre, puis ensuite, ils s'en vont de leur bord, tu sais, ça fait pas de sens. Le mist était hyper bien réussi, contrairement au mist de Sky Blue, machin, là. Le carry dans le milieu avec elle en premier, puis Io, puis, tu sais, Bailey. Il y avait juste Shoddy qui était pas crédible avec son save, j'ai trouvé, là. Mais la photo à la fin de Damage Control avec Carrie puis Asuka, c'est quand la dernière fois que tu as vu un clan féminin de cette grandeur-là?
C'est vrai.
J'ai jamais vu un clan féminin avec 5
filles. Parce que moi, dans ma tête, c'était, ils vont clairer Bailey. Ils vont clairer Dakota, puis ça va être le clan du Japon. Mais en termes de grandeur, c'est vrai que c'est impressionnant d'avoir autant de femmes ensemble sur un clan.
Ben oui, gardez ça un bout de temps. Ça arrive jamais.
Je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi.
Cedric Alexander et Dragon Lee ont sorti. Dragon Lee est vraiment bon.
Cedric Alexander est vraiment bon.
Ben oui, t'as raison. Il est juste mal utilisé. Mais là, on lui a laissé la chance d'en faire un peu plus, puis ça a bien sorti.
Fait 2 semaines de suite, là.
Dis-moi, te rappelles-tu, après Crown Jewel, la première chose que je t'ai dit, Logan Paul, Rey Mysterio, je t'ai dit, moi, j'ai l'impression que Logan était trop loin.
Ouais, il l'a dit.
Puis, il l'a avoué lui-même. Il dit, c'est bien cool, là, vous me voyez tout comme un sauveur.
Ouais.
Mais moi, j'étais vraiment trop loin. Dans le fond, là, ce qu'il a fait, c'est rattraper sa propre erreur. Il ouais. était trop loin. Puis là, Ray a fait son saut. Puis là, il est arrivé pour l'attraper parce qu'il a réalisé. Fait que il l'a sauvé pareil. Mais il était vraiment trop loin. C'est la première chose que j'ai vue. Fait que j'étais content. Puis plein. Tu sais, toi, tu m'as dit que c'était pas ça, mais il y en a d'autres qui m'ont obstiné là-dessus aussi. Puis j'étais content
en
de savoir
fait, quoi, en fait, je t'ai dit qu'il soit trop loin ou qu'il soit pas trop loin. L'important, c'est qu'il a attrapé Ray. Là. C'est ça
que
j'ai dit.
Non, mais la première chose que tu m'as dit, c'était sûr parce qu'il y a bien des workers ouais. en ligne qui disent que c'est Ray qui a pas été aussi loin.
Exact.
Puis moi, je t'ai dit, moi, il me semble que c'est Logan, mais.
Moi, ce que j'aime de Logan, c'est à l'espace de quelques semaines, quelques jours, excuse, on a vu la belt partout. Dans des talk shows, au UFC. On a vu dans un punch shop, essayer de punch up le belt. Puis Cotter a promo sur Seth Rollins et LA Knight, c'est sorti aujourd'hui. On l'a vu sur un autre, sur son propre podcast, expliquer l'importance de la ceinture pour lui. Il s'est presque tourné babyface sur son podcast. Logan Paul, c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver à la WWE en 2023.
Et en 2024.
Ouais. Pis j'attends juste le match Logan Paul contre MJF.
Oh! Wow! Nostradakev.
Tu sais quoi l'autre match que j'attends?
Non.
Tu veux-tu un match Shut It Down? Là?
Vas-y.
Logan Paul contre Dwayne The Rock Johnson.
Un match de rêve!
Non, mais... je sais que c'est très utopique, là.
Ça arrivera pas.
Mais c'est pas une question que ça arrivera pas. C'est pas ça que je te dis. Je te dis juste que... c'est possible. Là. Admettons, ça arrive. Là, c'est shut it down, là. Là, nous, là, toi pis moi, Pat, là, on fait toutes les shows télé parce qu'ils nous posent des questions sur ce match-là, là.
Ça, c'est sûr.
C'est tout ce que je dis.
En passant, j'ai dit à Kevin que c'était... J'avais fait le message... Et j'ai dit, en plus, on parlait de toi à ce moment-là. Et ils m'ont répondu, parliez-vous de mon podcast à la poche bleue?
Il va jamais lire de dé, hein? Dis-y what's up pour moi, là. Dis-y what's up pour moi, là.
Hey,
tu lui diras, j'aime plus parler à son père qu'à lui.
C'est beau. Ça, je vais dire. J'ai adoré ce qui s'est passé avec le Judgment Day lundi. Que Damien Priest s'autoproclame le leader, ça fasse pas l'affaire des autres. On voit le segment backstage où il règle ça. Priest, il dit qu'il était fâché, puis il pensait pas ce qu'il a dit. Puis là, ensuite, Rhea, qui clairement, c'est la vraie leader parce qu'elle dirige la rencontre, puis elle dit, ben Priest est quand même la meilleure personne pour diriger l'équipe à Wargames. Moi, je suis pas là. Les autres sont d'accord. Puis là, ensuite, t'as l'affaire de JD McDonough. Puis là, c'est Priest qui dit, c'est moi qui devrais l'inclure dans le groupe parce que c'est moi qui ai été, tu sais, son plus fort critique. Tout ça avait du sens. Puis dans la finale, ben c'est Rhea Ripley, à cause de son handshake, sa poignée de main avec Drew McIntyre, qui clairement a été chercher Drew McIntyre pour les aider, vu que le reste du Judgment Day pouvait pas être ringside. Tout ça a du sens. C'est tellement le fun, la lutte, quand c'est bien fait. Oh, j'ai adoré ça.
J'ai aimé que Damien Priest dise c'est le leader. C'est lui qui va être le champion. Fait que ça va être lui le leader éventuellement. J'ai adoré...
Attends une minute. Rhea, c'est la championne aussi.
Ok, Rhea, c'est la leader en général, mais des 4 boys, là, dans le War Games. Des boys, là, ça va être Damien Priest, le leader. Moi, là, je suis extrêmement excité du AEW Continental. Vous voyez pas Pat Laprade, là, mais Pat Laprade, il est en train de le texter avec un esti de sourire, là. Genre, Pat, il y a une satisfaction en ce moment à mettre de la merde entre les Kevin. Mais ce qu'il comprend pas, c'est lui qui va ramasser.
J'ai marqué, il fait dire qu'il aime mieux parler à ton père qu'à toi, mais il dit qu'il niaise et qu'il t'aime.
Mais,
il est en train de répondre.
J'adore...
Il fait dire qu'il comprend. Il aime mieux parler à son père qu'à lui-même, lui aussi.
Good guy. Mais j'ai adoré l'annonce du Intercontinental Tournament, Round Robin, whatever, the AW. C'est comme leur G1 à eux autres. Y a un sac
à l'Égypte. Ouais.
J'aime l'idée.
Puis que Bryan Danielson était pour en faire partie.
Ben si Danielson est dedans, c'est qu'ils vont mettre leurs 20 top dogs dedans, fait que c'est peut-être un vrai G1.
J'allais dire, si Danielson est dedans, c'est peut-être parce qu'il fera jamais le vrai G1.
Ben c'est pas mal ça, là.
Ouais. Moi, j'ai plus rien d'autre.
Ben, j'aime tout le temps tout ce qui se passe avec Alpha Academy. SmackDown, j'ai aimé la promo. J'ai aimé le segment de LA Knight pour se reprendre de Roman Reigns puis de sa défaite à Crown Jewel. J'ai aimé le main event, le tag match. Puis sinon, c'est pas mal ça.
Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives.
Mettons là, l'esti de pancarte de fucking Jay White là. On est-tu esti, man, dans un match indie, pis on apporte la pancarte pis on se trouve drôle? You stupid ass fuck! T'as la carte, ta pancarte est tout pété en plus là. On peut-tu mettre du sérieux? C'est le championship là. C'est le championship, tu viens de traiter le patinet. T'as fait le move le plus raciste il y a 3 semaines, pis là t'amènes une pancarte pis t'es content de la pancarte, là. Shut the fuck up, Joseph Robinson.
Vas-y, Fred, tu peux y aller. Je pensais que t'allais le mettre.
Cave.
Oh non.
Cave.
Je pensais que t'allais mettre la montée de lait.
Mettons, là, les Young Bucks, là, ils peuvent pas, ouais, ils peuvent pas acter pour sauver leur vie, là. Ah, mettons, là, leur vie est sur la ligne, là. Leur vie est sur la ligne. They gonna die. Ils vont die. Ils peuvent pas acter pour sauver leur vie. Ils ont aucune crédibilité en acting. Quand ils sont fâchés, ils bougent leur tête comme mm-hmm. Est-ce que t'es pas à la Keisha de Brooklyn, là? What do you mean? What do you mean?
On en a parlé brièvement la semaine passée, mais là, j'ai vu le footage. Samoa Joe, qui gagne, qui bat Keith Lee pour le titre télé de Ring of Honor, et qui, tout de suite après, il dit, écoute, tu sais, j'ai adoré être champion ROH TV, blablabla, bla, bla, mais je laisse le titre vacant parce que je veux aller... Mon prochain titre, c'est celui qu'MJF a. Depuis quand quelqu'un n'a pas le droit d'avoir 2 ceintures? Pourquoi t'es obligé de rendre le titre vacant pour aller défier un autre champion? Ça sort d'où, cette règle-là?
Surtout qu'il est dans un feud où il va être coéquipier avec MJF pour que MJF, oui, garde son titre en ROH.
Fait pourquoi, genre... Écoute, pour vrai, là, il n'y a rien de plus que vous vous calissez du titre télé de Ring of Honor.
Exact.
Que ce move-là, que je ne comprends absolument pas. J'ai pas aimé Santos Escobar. Son turn, j'ai pas aimé son turn.
Son turn était late, puis il aurait dû... Ben, en fait, j'ai aimé où son turn est allé, parce que le injury angle était bon.
Oui, mais j'ai pas aimé qu'on nous présente pas le footage du point américain. C'est ça. C'est de là que c'est parti. Puis il y a comme personne qui te l'a montré à l'écran.
Carlito aurait dû le montrer.
Oui.
Puis le tour aurait dû se faire en début de show, quand tout le monde était dans le ring. Puis Carlito, tu sais, pour moi, le tour aurait dû se faire.
En plus, c'est Ray qui l'a poussé le premier.
C'est vrai.
Fait à quelque part, ça te donne une raison à Escobar d'avoir tourné heel, alors que ça aurait dû être autour de ce qui s'est passé à Crown Jewel, puis qu'il a laissé le point américain sur le bord du ring. J'ai pas aimé ça. Je suis d'accord avec toi que c'est bien d'avoir tourné quelqu'un pour l'histoire de la blessure, mais j'ai pas aimé comment ça s'est fait avant ça.
Mettons, la promo de AEW, là, vraiment, AEW a encore des problèmes de son, mais j'en parle plus sur le podcast, j'en parle plus. La promo... Adam Cole, là, OK? Il appelle Adam Cole sans le prévenir dans l'histoire, là.
Oui.
Right?
Oui.
Adam Cole est tout le temps dans la même position, la même place chez eux. Il bouge pas. Tout le temps le même fond.
OK, je comprends.
Mais toi, je t'appelle sans me en te surprenant, là. Ben, ça se peut que tu sois dans ta cuisine. Ça se peut que tu sois dans ton salon. Ça se peut que tu sois... C'est sûr que t'es pas assis à la même place tout le temps si je t'appelle pour te surprendre.
Les chances sont minces, effectivement.
Puis mettons, là, on peut-tu arranger le son de Adam Cole. Je sais qu'on veut faire comme si c'était un zoom, pis, mais c'est de la calisse de merde. On comprend même pas qu'est-ce qu'il dit. On fait de la télé, on fait pas de la télé.
Je suis d'accord avec toi, parce que quand il a dit à MJF, tu sais, tu devrais teamer avec Joe, j'ai pas compris le nom qu'il a dit. J'ai juste pas compris. Je savais de qui il parlait, mais je l'ai réécouté pour savoir, pour être sûr qu'il avait vraiment dit ce nom-là, puis on l'entendait vraiment pas bien.
Mais toi, hey, Wardlow, là...
ouais.
Mais le but, c'est de builder Wardlow pour l'envoyer contre MJF, right?
Mm-hmm.
Le meilleur moyen de builder Wardlow, c'est de l'avoir à chaque esti de show faire des powerbomb.
Mm-hmm.
Ça fait deux semaines qu'il n'a pas fait de powerbomb.
T'as-tu vu passer à Rampage, qui a eu seulement 3 matchs au lieu de 4? Sais-tu pourquoi?
Pourquoi?
Il y avait un combat prévu entre Commander et Metalik. Tu te souviens de Metalik qui était à WWE?
Mm-hmm.
Et imagine-toi donc que Metalik voulait pas mettre over Commander. Mm. Il voulait pas perdre.
Mm.
Metalik voulait pas perdre. T'es qui, toi?
Ben,
voyons!
Attends, t'es
en quelle année? Pis t'es qui, toi?
Au Mexique, c'est une méga star. Dans sa tête, je comprends qu'il pense qu'il est une
pas méga star.
Ben, il est plus gros star que Commander.
Non, pas en ce moment. Non, absolument pas. Il a été des années à WWE, là. Il est pas. Non, c'est aucunement une plus grosse star que Commander en ce moment, Metalik.
Hey. Moi, je m'ostinerai pas là-dessus parce qu'il y a un gars qui va me tweeter pour me dire qu'on perdrait pas 10 minutes du show à s'ostiner si je voudrais pas avoir raison. Mais je pense que j'ai raison.
Metalik, get over yourself. Hey, Vinci, là. Giovanni Vinci.
Ouais.
Qui se fait sortir du ringside par l'arbitre.
Ouais.
Il revient. Ouais. Il intervient dans le match. L'arbitre le voit.
Non. Il a pas intervenu dans le match. Il a intervenu sur Gargano.
Il a intervenu.
Aux abords du ring.
Ben oui, mais il l'a sorti des abords du ring.
Je suis d'accord avec toi qu'il l'a sorti, mais il a pas intervenu dans le match.
Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est si t'envoies quelqu'un en arrière, puis qu'il revient quand même, puis il n'y a pas de conséquences, il n'y a plus personne qui va prendre ça au sérieux. Parce que non seulement il n'y a pas eu de conséquences, Kaiser a gagné son combat à cause de ça.
Mm-hmm.
Comment faire passer un arbitre pour un épais?
Ils ont ouvert le livre de AEW. Mettons la promo, là, jeu vidéo, là.
Ouais.
J'ai pas compris. Ils nous l'ont pas expliqué. On laisse ça as it is. Pas plus grand que ça. Ils ont pris 3 minutes de ma vie. Parfait. Passe à autre chose.
On va passer aux prédictions.
Mettons, prédictions. Là, on a-tu le droit d'avoir plus qu'un esti de match féminin sur le show? Je dis ça demain.
Ça, Kev, c'est comme le son. Faut que tu fasses la paix avec.
Ouais, faut qu'on fasse la paix de la médiocrité.
On peut s'aller aux prédictions?
Oui.
Prédictions.
Je vais dire de quoi, mais... C'est rare que je me garde une petite gêne, mais je me suis gardé une petite gêne.
Alors, Saint-Lin, prise 3.
Faut faire la paix avec la médiocrité. C'est comme les... OK, on peut continuer.
Wow!
Ça se peut que je te demande de l'enlever, Fred, tantôt. En fait, je pense qu'on va l'enlever, Fred. Ou tu mettras un long beep. Tu mettras un long beep dessus. OK, fini. On peut prédiction.
Prédiction. Full Gear, ce samedi 18 novembre, en direct de Los Angeles, 20h, heure de l'Est.
C'est soit je vais l'écouter pour noyer ma peine du bol d'or, soit je vais l'écouter très, très chaud.
Ah, écoute, moi, je vais voir Kiss au Centre Bell avant. Et j'ai revu les photos de notre dernière fois où moi, mais on était voir Kiss. Donc, moi, je pense que ça va être la deuxième option pour moi.
Ben, écoute, si on l'écoute, les deux shows, ça va faire un bon podcast.
Et ça va faire, oui, absolument.
Fred, il va être content pour Keybook.
Oui, tout à fait. MJF défend son titre mondial contre Jay White.
MJF
garde ça. Hikaru Shida défend son titre féminin contre Toni Storm.
Toni Storm.
À cause de Maria May.
Maria May va aider Toni Storm à gagner le match.
Ouais. Orange Cassidy défend son titre international contre Jon Moxley.
John Moxley.
À John Moxley, là. sais, c'était lui qui devait être champion, ouais, il y a pas si longtemps, là, avant qu'il ait sa commotion. Les champions par équipe, Ricky Starks et Big Bill. Je répète, les champions par équipe, Ricky Starks et Big Bill.
Tu sais qu'on n'a pas vu ces FTR Dynamite?
Je le sais.
Mais non, mais...
Contre FTR, ça n'a pas de sens.
On les a pas vus à Dynamite du tout.
House of Black et Rouge Hydralistico.
Mais je m'en fous, je m'en fous.
Ordonnez-les à FTR, là.
Non, mais je veux même pas. Je veux même pas.
Chris Statlander, la championne
PBS. Juste mentionner que donc... les Young Bucks viennent de faire leur heel turn.
Ben ouais, mais je te l'ai dit que ça s'en venait, là.
On se l'a dit que ça s'en venait. Mais...
Merci. Moi, quand je te spoil, je te le demande avant si tu veux te faire spoiler. Toi, tu t'en calisses. Toi, tu me fais juste me le dire carré de même. C'est correct. Maman souvenir, quand même.
Non.
La prochaine fois, tu vas faire comme... Non, dis-moi le pas. Puis là, tu vas te boucher les oreilles, là. Ouais. La championne TBS, Chris Statlander, va défendre contre Julia Hart.
Julia Hart, d'accord.
Et à ta minute, à qui a gagné entre Sky Blue et Red Velvet aujourd'hui?
OK! Montez de lait!
Merci de ne pas répondre.
Montez de lait!
La montée de lait, KR.
Sur les deux partenaires! Viennent de faire un heel turn! La foule U! La foule U! Boo! Les deux partenaires viennent de faire un heel fucking turn! Un heel turn! Boo! Ils montent la rampe, ils signent le soulier d'un enfant pis ils tapent dans la main. What do you mean? What do you mean? Qu'est-ce que tu fais? On vient de te huer. Là, tu signes des Jordan d'un kid. Tu signes les Jordan d'un kid. What kind of fucking heel turn, c'est? Jesus!
Au pire, aller, tu sais, de le faire dans la vie de tous les jours, mettons, à la sortie de l'aréna.
Mais pas quand tu viens de faire ton heel turn dans le ring.
Mais pas quand les caméras roulent encore.
C'est comme si tu break up avec ta blonde, tu break up avec elle, puis en passant par la porte, tu fais un câlin, tu donnes un bec pour dire « Oublie-moi pas! » Get the fuck out of here, man! Tabarnak!
Tu sais qu'il y a vraiment des break-up qui se sont terminés comme ça, là.
Ben, c'est de la bullshit! Tu break up! Y'a ben pas oui. De bec pis de
« ben Oublie-moi pas, là! » Tu break up, tu couches avec sa meilleure amie tout de suite après, c'est ça, un break up?
Oh, bat!
Mais non, mais c'est un heel turn ou c'est pas un heel turn?
Non, c'est très heel, ça. Damn! Oh, OK.
Il l'avait pas vu venir.
Non.
Elle non plus. Donc, Chris Statlander qui va affronter Julia Hart et Sky Blue qui a gagné aujourd'hui contre Red Velvet dans un three-way. Honnêtement, je t'aurais pas dit ça il y a un mois, mais j'espère que Julia Hart va gagner.
Ben oui, c'est son time, là.
Par contre, ça commence à faire pas mal de changements de titre. Tony Storm, John Moxley.
Ils ont besoin
peut-être
qu'FTR
ne gagnera pas d'abord.
Ils ont besoin d'un shake-up pour AEW.
Edmund Page contre Swerve Strickland dans un Texas Death Match.
Ça va être Swerve. Ah, c'est Swerve qui a gagné le premier, hein?
Ouais, non, ça va être Page.
Ça va être Hangman, puis après ça, ça va être Swerve le prochain.
Sting, Darby Allin et Adam Copeland contre Christian Cage, Luchasaurus et Nick Wayne. Ben, c'est moi, j'espère que ça va être Adam Copeland sur Christian Cage.
J'écoute AEW en ce moment, là. Aucune mention d'Adam Copeland.
Ouais.
Ben, je peux pas voir, je suis rendu coin parce que TSN le app, c'est la calisse de merde. Mais je sacrée beaucoup aujourd'hui, je m'excuse. Là. Mais.
Hey, qui gagne ce combat-là, Kev?
Ben, ça va être Adam Copeland et le crew. Là.
Fred, faut vraiment retourner en studio. Parce que Kevin qui regarde Dynamite en même temps qu'il fait le podcast, c'est une crise de mauvaise combinaison.
Il y a un double écouteur, là, je le vois, il y a un écouteur blanc dans l'oreille en même temps que ses écouteurs.
Hey, écoute,
ça va pas le bien, là. Les gens sont contents parce qu'il y a un review mini de Dynamite et ils attendront pas une semaine.
Ça, c'est s'ils sont encore après nous autres, après t'as crié « U » depuis tantôt. Mais les Golden
Boo,
c'est Boo. Bon, c'est ça. Les Golden Jets.
Dit U. C'est quoi U?
U. Les Golden Jets, Omega et Jericho, d'ailleurs, j'adore le nom, contre les Young Bucks. Le gagnant a un match de championnat par équipe. Si les Golden Jets perdent, ils se séparent.
Ah ben, c'est les Golden Jets qui gagnent.
Je pense, moi aussi.
Ben oui.
Dans le Zero Hour Pre-Show, MJF et un partenaire mystère contre les Guns pour défendre les titres par équipe de Ring of Honor.
Les Guns
qui
vont
est
gagner.
Le partenaire mystère?
Samoa Joe puis les Guns vont gagner.
Samoa Joe et MJF et Samoa Joe vont gagner.
Non, Samoa
ces
Joe.
Ces titres-là, ça s'en vont nulle part tant Adam Cole revient pas.
Samoa Joe va attaquer MJF. Comme ça, MJF va aller contre Samoa Joe après son feud contre Jay White.
Et finalement, Tony Khan a annoncé qu'à Full Gear, il a signé un. Je vais vous le dire en anglais, là. With one of the world's best wrestlers. Donc, il a signé un nouveau lutteur et son identité va être connue ce samedi à Full Gear. Qui crois-tu c'est? Un des meilleurs lutteurs au monde.
M'en fous.
Mais Kev.
Ben, tu veux. Okay,
Mais non, mais c'est pas. Honnêtement, ce genre d'annonce-là me dérange pas. Parce que c'est très possible qu'il ait signé un des meilleurs lutteurs au monde. Il a pas dit qu'il y avait juste un huge announcement. C'est quelque chose de précis. On sait à quoi s'attendre.
OK, allons-y avec qui est disponible.
Bon, Will Ospreay. Ah non, pas encore.
Non.
Fait que ça peut pas être Will Ospreay. Zack Sabre Jr. peut-être.
Ou Matt Riddle.
Ça fait 3 mois?
Ça va faire 3 mois, ouais.
C'est quand qu'ils sont faits congédier?
Ben oui, je me suis fait dire par TVA Sport que notre podcast sur les congédiments, c'est notre podcast le plus écouté cette année.
Sur les congés, ah oui?
Mm-hmm.
Dolph Ziggler s'est fait congédier quand, Kev?
Ben, je regarde ça, là. Je vais te dire ça tout de suite, donne-moi 2 secondes. Le 28
On
septembre.
On s'en va nulle part, là.
La semaine du 28 septembre. Fait que le 21 septembre.
Ben, samedi, ça fera pas 1 mois.
Ça fera pas trois mois.
Ah, ben, en fait, attends une minute. Il a dit qu'il était pour révéler son identité. Ça veut pas dire qu'il va être là pis qu'il va lutter.
Mais il peut pas le signer pareil.
Ben, il l'a peut-être pas signé pour vrai.
Ah, mais tu vas pas annoncer quelqu'un que t'as pas signé.
Ils sont peut-être entendus verbalement.
Ouais, mais si c'est pas signé, tu t'annonces pas quelqu'un que c'est pas signé sur papier.
Alors,
légalement parlant, c'est pas une bonne idée, là.
Donc, ça veut dire que c'est Matt Riddle.
Mais Matt Riddle, il avait le même contrat que il était main roster, fait que ça peut pas être Matt Riddle non plus.
Mais Matt Riddle, c'est pas juste... Je pense pas que Matt Riddle a le 3 mois.
Non, il a le même firing que n'importe qui. Là.
Ouais?
Ouais.
C'est pas... Avec ce qui s'est passé, c'est pas...
C'est le même firing que les 3. Que les 21,
qui,
whatever.
Qui c'est qui est parti récemment puis qui pourrait être disponible? Quelqu'un d'NXT?
C'est pour ça que je te dis, je sais pas qui est disponible. Au point de faire une annonce puis de le présenter sur un pay-per-view. Goldberg?
Est-ce que ça pourrait être Sasha Banks? Mercedes Moné?
Mais pourquoi tu irais au masculin? Ah, parce que wrestler, c'est les deux, c'est masculin.
One of the best wrestlers?
Ouais.
Ouais.
Ça pourrait être
parce
Sasha
que je veux
Banks.
Dire...
Mais Sasha Banks, est-ce que je la qualifierais comme une des meilleures wrestlers ou une des biggest stars of wrestling? T'sais, si ouais, c'était Sasha Banks, je mettrais plus de jus, là.
Je comprends, mais bon, en même temps, tu sais, ça sera pas Mandy Rose, là, tu comprends?
Zack Sabre Jr.?
Ben, c'est ce que je t'ai dit tantôt. Ça se pourrait. Sinon, c'est qui... C'est qui les autres? C'est pas Elias, mais de toute façon, WWE, ça peut pas être une option. Bon, fait que, à NXT, y a-tu vraiment des gens à NXT? Ben non,
il y a personne à NXT. Non, y a pas NXT qui ont quitté que... C'est pour ça que je te dis, je vais être assis, puis je vais... Je sais pas.
Ça sera pas à l'IA, certain.
J'ai aucune idée.
Ça va être intéressant.
Qui pourrait signer?
Le quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double G. Quel est votre commentateur préféré entre Michael Cole ou Kevin Kelly?
Kevin Kelly. Oh non, Michael Cole, Kevin. Je le connais depuis plus longtemps. Je trouve que Kelly est meilleur, mais Michael Cole a quand même bercé une très longue partie de ma vie.
Moi, je dirais Kevin Kelly parce que je le connais personnellement. Donc, tu sais, c'est mon préféré pour bien des raisons. Puis, tu sais, il m'avait... Ouais, on a une bonne relation, puis je veux dire, c'est lui. Qui bénéficiera le plus de son heel turn entre Drew McIntyre et ou Santos Escobar? Ben qui McIntyre. Va en bénéficier, c'est Santos Escobar.
C'est Drew McIntyre.
Non, mais dans le sens où Drew reste un main event, qu'il soit babyface ou heel. Santos Escobar, là, ça pourrait l'élever un petit peu le fait qu'il soit tourné heel. Du moins les premières semaines. C'est dans ce
ouais,
sens
mais ça. À la fin de la journée, qui va en bénéficier le plus, c'est Drew McIntyre.
Qui sera le cinquième membre de l'équipe de Cody Rhodes entre CM Punk ou Randy Orton?
C'est Randy Orton.
Punk n'est pas là, oubliez ça. Hey, oubliez pas de vous abonner à notre Patreon, c'est le bon mois. Il y a un nouveau t-shirt Booker Key. On a-tu pas mal de commandes, Kev?
Non.
Kevin?
J'ai dit non.
Kevin?
J'ai dit non.
Non! Mais là, comment ça?
Ben, demande aux gens.
Hey, allez acheter votre Booker Key.
Je regarde sur Internet, il y a des gens qui avancent Ronda Rousey, hein?
Ah, Ronda Rousey. Hey, ça serait fou, ça. Hey, mais pour vrai, parce que le Booker Key, là, c'est pas juste pour les abonnés du Patreon. Les abonnés du Patreon, vous avez un rabais. Allez vous procurer Booker Key. Abonnez-vous au Patreon. Dimanche matin, on fait la revue de Full Gear. Entrevue avec Kevin Kelly. On a d'autres entrevues qui s'en viennent. Des beaux Patreons qui s'en viennent également. C'est déjà tout pour nous. Au nom de Fred Poirier, celui de KR, Kevin Raphaël. Bonne chance pour le bol d'or. C'est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.